Alors, on va lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 14 jusqu'à chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 2, 14 à 3, 9. Il est écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître ». Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul », un autre « moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin « Vivons-nous une croissance normale ?» Lorsqu'on regarde la vie d'un être humain, elle commence par la naissance, on est bébé, et puis on grandit, on devient un jeune enfant, après un adolescent, ou une jeune personne, et puis normalement, eh bien, on devient un adulte. Il y a une croissance logique, normale, et qui doit normalement aller vers plus de maturité, plus de sagesse, plus de, voilà, une attitude plus posée. Maintenant, si on regarde la société, on voit que beaucoup ont un grand nombre d'années qui laissent entendre qu'ils sont adultes, mais dans les faits, on se dit, mais ce sont encore des adolescents, voire parfois des enfants ou des petits-enfants. Et c'est exactement pareil pour la vie chrétienne. On est enfant de Dieu, et puis après, petit enfant, eh bien, on devient jeune gens, et puis après on grandit et on doit normalement devenir adulte, c'est-à-dire acquérir une maturité, une profondeur par la vie en Jésus-Christ. Mais là encore, la croissance spirituelle, elle n'est pas toujours constante et régulière, et parfois des chrétiens qui devraient être des adultes sont encore des ados, voire des petits-enfants immatures. Et là, c'est ce que décrit l'apôtre Paul. Il regarde l'église de Corinthe et puis il s'étonne. C'était une église qui avait reçu tout son enseignement pendant un an et demi. Et puis après l'enseignement d'autres serviteurs qui passaient par là. L'assemblée s'était bien développée en sorte que le témoignage de Christ était solidement établi parmi eux. Donc vraiment une église qui avait tout reçu. Mais pourtant, Paul va les reprendre parce que leur croissance ne s'est pas poursuivie avec une courbe normale, régulière, ascendante. Ici, il y a eu un problème et on voit qu'ils étaient plutôt en train de descendre spirituellement après avoir connu pourtant la nouvelle naissance. Et notre texte donc commence par nous parler de l'homme naturel, verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. » Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, on avait vu la semaine dernière que nous commençons tous notre vie comme des hommes naturels. Quand nous naissons, nous sommes hommes naturels, c'est-à-dire hommes animal. La traduction littérale, c'est animal. Parce que naturellement, nous sommes coupés de Dieu du fait de nos péchés. Et donc, on n'est pas gouverné par un esprit en Dieu, hein. On est gouverné plutôt par notre âme, par nos sentiments, par nos passions, par nos envies, par nos sens. Mais quand on vient à Jésus-Christ, quand on croit en Jésus-Christ crucifié, alors ça change, ou ça peut changer cet état de fait, si vraiment on le fait. Quand l'homme naturel prend conscience qu'il est un pécheur perdu, et quand il prend conscience que Jésus-Christ a payé pour ses péchés, et qu'il suffit qu'il croie pour que Jésus le sauve, alors là, il vit un miracle. C'est un petit miracle, c'est que par la foi, il reçoit le pardon des péchés, et par la foi, le Saint-Esprit vient régénérer son cœur et faire de lui une nouvelle créature qui plaît à Dieu et qui est maintenant en communion avec Dieu. Maintenant, l'Esprit habite dans le cœur de celui qui s'est repenti et cet Esprit va le pousser vers une vie sainte, vers une vie pieuse, vers une vie qui est agréable à Dieu. Et Paul décrit ainsi l'homme spirituel, donc il devient un homme spirituel. Paul dit que cet homme spirituel qui a reçu l'Esprit de Dieu, il dit, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, fils de Dieu. Donc l'homme spirituel, il est conduit par l'Esprit qui est maintenant dans son cœur. Il se laisse diriger, conduire par le Saint-Esprit. On avait vu cette semaine dans l'étude, on a parlé de Jésus et Joseph relevait que Jésus avait été conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, en tant qu'homme, se laissait conduire par le Saint-Esprit parce qu'il voulait obéir pleinement à son Père. Eh bien, l'homme spirituel, il se laisse conduire par l'Esprit. On va à droite, on va à droite. Tu veux faire ça, Seigneur ? On fait ça, Seigneur. Je ne dois pas faire ça ? Je ne fais pas ça. Donc, conduit par l'Esprit. Il en est ainsi de l'homme spirituel. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Eh bien, l'homme spirituel, il se nourrit de la volonté du Père. Il veut faire la volonté du Père. Ensuite, l'homme spirituel, à son sujet, Paul dit, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et c'est une deuxième caractéristique de l'homme spirituel, c'est qu'il s'affectionne aux choses de l'Esprit. Il va rechercher, il va aimer, il va désirer ce qui vient de Dieu. Donc, il va aimer lire la Bible, il va aimer chanter des cantiques, il va aimer la communion avec les frères et sœurs, il va aimer témoigner aussi, hein, partager sa foi en Jésus-Christ. L'homme spirituel s'affectionne à ces choses. Et c'est important pour lui parce qu'il ne peut pas faire sans dans sa vie. Ça fait partie de sa vie. Et il y a l'idée d'une constance dans ces choses. L'homme spirituel est constant dans ces choses. Ce n'est pas en dents de scie comme ça, non. Il s'affectionne d'une manière constante à ces choses. Ce n'est pas qu'il aime ces choses de temps en temps, avec modération, mais c'est qu'il ne peut pas vivre sans ça. Quand vous regardez l'homme naturel, l'homme qui est sans Dieu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, en général, il est surpris de voir quelqu'un qui aime la Bible, qui y fait référence souvent, qui la lit tous les jours, qui même affiche des versets partout, il se dit « non, mais là, c'est trop, là, hein, là c'est de l'extrémisme, on va trop loin ». Mais l'homme spirituel s'affectionne des choses qui viennent d'en haut. L'homme naturel, il est prêt à avoir un petit peu de Dieu, mais pas trop dans sa vie. Mais l'homme qui a l'Esprit de Dieu, mais il ne peut pas faire ça. Il est attiré, il veut ces choses. Parce que l'Esprit nous donne de l'amour pour Dieu, de l'amour pour sa parole, de l'amour pour les frères et sœurs, de l'amour pour les louanges. Et puis enfin, Paul dit, et ça c'était notre texte, l'homme spirituel juge de tout. On avait vu la dernière fois, c'est dans l'idée que l'homme spirituel discerne tout. Quand il est en Dieu, alors Dieu lui donne comme une clairvoyance, hein, il permet de discerner les choses avec justesse, parce que Dieu lui donne ce regard sur les choses. On peut dire que lors de la conversion à Jésus-Christ, quand quelqu'un vient à Jésus, il accepte vraiment, il se repent et il entre dans son cœur, on passe presque directement de l'homme naturel à l'homme spirituel. Il y a comme une envolée là, parce que l'Esprit, à ce moment-là, nous remplit. Et même si on ne possède pas encore une maturité d'adulte hein, en Christ, hein, même si on ne comprend pas encore toutes les choses, parce que on manque d'expérience, on ne connaîtra jamais toutes choses, hein, mais en tout cas on manque d'expérience au début, mais souvent l'Esprit de Dieu remplit son fils, remplit sa fille, et là dans cette conversion, on entre dans des expériences qui sont merveilleuses avec le Seigneur. Il va se servir de nous, il va parler par notre bouche à quelqu'un, un voisin. on va vraiment voir qu'il est avec nous. Il va nous garder même du péché. On va être surpris de ne pas tomber. Hein. On se sent fort en Jésus-Christ. Il nous donne même du discernement, une vision claire sur ce qui s'est passé dans notre vie, sur la relation que nous avons avec lui. Et puis, les jours passent, les semaines passent. Et puis après, petit à petit, on fait une autre expérience, une autre réalité dans notre vie. Paul dit, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et après avoir, après l'homme naturel, l'homme spirituel, la Bible parle de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un chrétien, il a reçu l'Esprit de Dieu, ça y est, il est sauvé, il appartient à Dieu, il a la vie éternelle, comme tous ces Corinthiens qui avaient cru en Jésus, qui étaient sauvés. Mais lorsque on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est toujours possible de désobéir après, désobéir au Seigneur. Et il suffit de ne plus se laisser conduire par l'Esprit. Et d'homme spirituel, on devient homme charnel. C'est-à-dire l'homme qui est conduit de nouveau par le moi, de nouveau par la vieille nature, par le péché qui est en nous. Donc, on redescend à l'état qui s'apparente à l'homme naturel avant, à l'homme qui était sans Dieu, à part que maintenant on connaît Dieu, mais voilà, on peut se comporter malheureusement comme l'homme animal. Mais la croissance normale d'un chrétien qui est né de nouveau, ce n'est pas de devenir un homme spirituel et de ne plus tomber. La chute, elle est normale. Et tous les chrétiens passent par là. L'apôtre Jean a écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Donc le péché est là, il est en nous et la chute, elle est toujours possible et tous les chrétiens font l'expérience de vivre l'homme charnel aussi. Le meilleur exemple, c'est l'apôtre Paul lui-même. Dans Romains 7, Paul décrit son expérience quand il est passé par cet état d'homme charnel. Il a compris cela en Romains 7. Versets 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et dans ce passage, Paul nous montre qu'il était, il était un homme comme nous, mais moi je suis charnel, je suis vendu au péché. Quand il a fait cette expérience, il était au Seigneur, il était sauvé et il est passé par là. Comme nous, il est tombé. Alors, on ne sait pas en quoi il est tombé, ce n'est pas utile de le savoir, hein. Mais il nous montre que dès que nous ne marchons plus par l'Esprit de Dieu, sous la conduite et l'obéissance de l'Esprit de Dieu, alors irrémédiablement, nous tombons dans un état d'homme charnel, vendu au péché. Et à ce moment-là, on voit une loi en nous qui nous domine, la loi du péché. On veut faire le bien et on n'y arrive pas comme on devrait. On veut arrêter de faire le mal et pourtant, on le fait quand même. Et si, au début de la vie chrétienne, Dieu fait grâce à son enfant, s'il porte son enfant, il nous donne comme des ailes qui nous rendent forts, vient un jour où il commence à nous retirer un peu les ailes. Pour dire, mais regarde ce que tu es en réalité. Hein, que tu prennes bien conscience de là où tu es en réalité. Tu es toujours un pécheur vendu au péché. Tu es comme ça. Et là, on comprend que si on a marché jusqu'à présent, et si nous pourrons marcher demain fidèlement, ça ne peut être que par la grâce et que par la force que nous communique l'Esprit de Dieu. Le juste vivra par la foi, nous disent à trois reprises les Écritures. Le juste vivra par la foi. Le juste va surmonter sa chair, son péché, ses passions, par la foi. C'est-à-dire dans la confiance en Jésus-Christ. Foi que Christ habite en lui, foi que c'est lui qui va lui communiquer la sainteté et la vie qui est nécessaire. Et si le passage de l'homme naturel à l'homme spirituel est une envolée merveilleuse vers une vie qui est plus belle, qui est plus sainte, qui est plus pieuse, la croissance normale d'un chrétien, elle est suivie de retombées et de quelques chutes, même je dirais beaucoup de chutes plutôt. Elles sont permises par Dieu, elles sont nécessaires parce qu'il faut qu'on se connaisse vraiment. Et il ne faut pas qu'on pense une seule seconde que si nous tenons debout, c'est parce qu'on a plus de force qu'un frère ou qu'une sœur, que nous sommes par nature quand même plus fidèles qu'un frère ou qu'une autre sœur. Ou bien on a des ressources cachées quelque part. On a un vrai amour pour le Seigneur, il faut le dire. Hein. On a un vrai amour pour le Seigneur, donc c'est pour ça qu'on arrive à tenir debout. Ou bien par je ne sais pas autre chose, hein, qui viendrait de nous-mêmes en fait. Dieu nous montre que nous n'avons rien en nous-mêmes pour aimer Dieu. Nous sommes vendus au péché. Et l'exemple de Simon-Pierre est très significatif. Hein. Dieu s'est retiré un petit peu et là, Simon-Pierre a vu sa vraie nature, capable de renier son Seigneur. Et nous aussi, il faut qu'on se connaisse tel que nous sommes réellement. Et donc, c'est normal qu'après la conversion, eh bien, on fasse l'expérience de notre mauvaise nature, de ci, par là. Et la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que maintenant, on a accepté le Seigneur. Maintenant, on est scellé du Saint-Esprit. L'Esprit habite en nous et il va nous accorder la puissance de vaincre cette mauvaise nature et de dominer cette mauvaise nature. Vous connaissez l'expression « chasser le naturel, il revient au galop ». Et l'homme naturel, il essaye parfois, hein, en tant qu'homme charnel, on peut essayer de lutter nous-mêmes contre notre péché. C'est incroyable. On essaye de lutter, mais c'est un peu comme l'hydre. Vous connaissez ce personnage, enfin ce monstre mythologique, l'hydre qui était un monstre avec plusieurs têtes de serpent. Et Hercule devait vaincre l'hydre dans les 12 travaux. Mais chaque fois qu'il coupait une tête, elle repoussait en deux têtes. Et il ne cessait pas. Eh bien, le péché, c'est ça. On essaye de lutter contre soi-même, et puis on a l'impression que c'est pire que mieux, qu'il est encore plus fort. Ça fait penser à l'histoire du Seigneur Jésus qu'il raconte dans l'Évangile, où il dit qu'un homme avait un démon dans sa maison, et puis le démon s'en va, il balaye, il nettoie, il range tout, et puis le démon revient avec 7 autres démons plus méchants que le premier. Et ça, c'est quand nous, on essaye de faire le ménage dans notre vie. Je vais me présenter à toi, Seigneur, saint. Vraiment, moi, je vais prier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, patatras. Et on s'effondre. Et on fait pire que ce qu'on a fait. Le péché est un peu comme ça. Plus on lutte, plus on essaye de combattre, plus il semble qu'il prend de la force dans notre cœur. Mais le Seigneur ne permet pas qu'on fasse cette expérience pour nous laisser ensuite par terre. Mais c'est justement pour nous apprendre à avoir la victoire en lui, par la foi. Une fois qu'on s'est bien débattu pour lutter contre notre péché et qu'on a compris qu'on ne peut rien, on n'y arrivera jamais, à ce moment-là, eh bien, on tombe à genoux et on dit « Seigneur, fais-le, je ne peux pas, fais-le, aie pitié de moi ». Le juste vivra par la foi. Il va pas vivre par ses propres forces ou par sa volonté. De toute façon, il n'a pas le pouvoir de faire le bien. C'est ce que dit Paul. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la puissance ou la force. Mais il vivra par la foi en son Seigneur qui va lui accorder gracieusement la victoire en Jésus-Christ. La victoire contre nous-mêmes. Et donc, contre le péché en nous, vient dans la foi, dans la confiance en Jésus. Et plus je lui consacre ma vie, plus je m'occupe de lui, plus je viens à lui, et plus il me communique cette victoire et il m'accorde cette grâce de tenir debout. Ça ne signifie pas que je dois prier au moins 3 fois par jour, que je dois lire au moins 10 chapitres hein, tous les jours. Ce n'est pas une question de quota, c'est une question de communion. Est-ce que j'ai une communion vraie avec le Seigneur? Et une communion vraie, on ne compte pas les chapitres, on ne compte pas le temps que l'on prie, on est en communion. Et la communion nous conduit là où Dieu veut nous conduire. Hein. Ça n'a pas d'importance, mais on veut une vraie communion avec le Seigneur. Paul dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. » C'est la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. « Et si je cherche Jésus chaque jour, sans compter, sans mesurer, mais simplement parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour être fidèle. J'ai besoin de lui pour ne pas tomber. J'ai besoin de revenir sans cesse à la source. Si je le fais sincèrement, alors, eh bien, il me libère. Il m'affranchit. Je m'occupe du Seigneur, je lui demande pardon et je lui demande simplement, je le supplie d'intervenir dans ma vie. On chante un cantique qui dit « S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, c'est quoi la suite ? Il écoute nos prières et il nous met en liberté. » Il nous affranchit. Hein? Vrai et sincère, c'est ce que Dieu veut. Vrai et sincère. Ça, c'est ce que Dieu attend de chacun. Mais c'est possible qu'une fois que l'on est convaincu qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, une fois qu'on en a assez du péché dans notre vie, on en a assez d'être esclave du péché, on ne le veut plus. Seigneur, je t'en supplie. Alors, eh bien, on devient vrai et sincère et il nous libère. Et on a foi, on saisit par la foi. Et la croissance d'un chrétien, elle ne peut pas se faire sans chute et rechute, mais normalement en montant malgré tout petit à petit. Hein? C'est ça la croissance normale. Parce qu'à chaque fois qu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour rétablir la communion avec lui. Et si notre cœur veut lui plaire, malgré nos chutes, il y a une croissance. Les chutes sont là, mais il y a une croissance avec lui. On ne peut que monter. L'alternance d'une vie conduite par l'esprit et conduite par la chair, conduite par l'esprit, conduite par la chair, c'est normal. C'est normal. Mais la croissance va faire que petit à petit, on va tomber de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps. C'est-à-dire, je tombe, tout de suite, je viens au pied de la croix. Relève-moi et pitié de moi, Seigneur. Il me relève. Et on continue. Toujours comme ça. Et petit à petit, on vit de plus en plus en homme spirituel. Il y a des chutes, oui. Mais on est plutôt à vivre avec le Seigneur en grimpant. Et c'est là où Paul regarde les Corinthiens et puis il s'étonne. Ils n'ont pas que 3 mois de vie chrétienne. Non, ça fait des années. Enfin, au moins 2 passés, je ne sais, j'ai pas regardé les dates. Hein. Certains ont plusieurs années de vie avec le Seigneur. En tout cas, dans l'église de Corinthe. Et pourtant, Paul regarde cette assemblée de Corinthe et il voit qu'ils sont encore charnels. Il dit des enfants en Christ. Il dit des enfants en Christ. Pourquoi il dit ça ? On est tous des enfants en Christ. Hein. Moi, je suis un enfant, on est des enfants en Christ. Et il faut savoir que le terme qu'il emploie ici, ce n'est pas le terme qu'il emploie ailleurs, d'habitude. Par exemple, quand il dit « l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu », ici, c'est un terme spécifique. Il dit « technon ». Technon, c'est un enfant légitime. Nous sommes la descendance de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu légitimes. Mais Paul, ici, dans ce passage, dit « népios ». Et ça signifie « un enfant en bas âge et donc ignorant, non habile et de fait immature ». Et donc, c'est dans ce sens-là, il dit « mais vous êtes des enfants de Christ, mais des enfants, des petits, petits enfants ». 1 Corinthiens 3, 2 à 4. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Alors, est-ce que Paul s'attendait à la perfection chez les Corinthiens? Certainement pas. Non. Il les connaît, il se connaît lui-même. Mais ce qui le pousse certainement à écrire cette lettre, eh bien, c'est le fait que cette attitude dans le cœur des Corinthiens semblait perdurer. Elle était constante. Ils étaient souvent comme ça. Ils n'arrivaient pas à régler leurs différends entre eux. Et aucun ne se repentait de son attitude vis-à-vis de l'autre. Et on va voir petit à petit, on va avancer dans 1 Corinthiens. Et nombre de péchés dans Corinthiens. Hein, il n'avait pas que ça comme problème. Et Paul s'étonne de ce qu'ils ne peuvent recevoir que du lait et non de la nourriture solide, comme des népios, comme des petits-enfants qui ont besoin du biberon. Ils ne peuvent pas recevoir de la viande. Alors, on peut imaginer leur conversation. Parce que vraiment, Paul en parlait déjà dans chapitre 1, il en reparle ici, c'est que c'était un vrai problème dans l'assemblée. Par exemple, quelqu'un dit « Moi, je suis de Paul ». Et le frère d'à côté « Moi, je suis d'Apollos ». C'est Apollos qui est le meilleur. Non. C'est Paul, c'est lui qui a fondé l'Église. Ah oui, mais Apollos, tu as entendu toutes les paroles, toutes les exhortations qui nous ont... Non, moi, je suis pour Apollos. Et voilà. Et vous imaginez ça? Et ça montait crescendo. Et ça dégénérait ensuite dans un esprit de parti, un esprit de dispute. Et quoi qu'ils étaient encore ensemble, le corps commençait à se briser, à se subdiviser. Les uns étaient d'un côté, les autres de l'autre. Alors, on peut avoir l'impression, on se dit, mais c'est quoi? C'est une cour de récréation? Mais parfois, l'église locale, elle est une cour de récréation. Et Dieu a besoin d'intervenir. Ça part d'une parole blessante. C'est vrai, c'était une parole blessante. Ou d'une négligence, quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Ou d'un manque de prévenance. Voilà, on n'a pas fait comme il fallait, de l'un à l'égard de l'autre. Ou bien de toute autre manifestation de la chair, et elles sont multiples, et là, ça commence à monter crescendo. Et personne ne cède, personne ne s'efface, personne ne se tait, et puis petit à petit, la température commence à monter. En ce qui concerne les relations avec les autres, on est en train de lire le livre des Proverbes, mais c'est un livre qui est riche, hein. En ce qui concerne vraiment la communion et le fait de rester ensemble et de vivre ensemble, Salomon donne plein de conseils dont on a besoin pour ne pas tomber dans des conflits charnels. Alors, je vais juste vous citer 3 proverbes. Proverbe 10, verset 19, qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Ici, il y a l'idée de retenir ses lèvres. Proverbe 17, verset 14. « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Et là, l'idée de se retirer dès que... Ouh là, je sens qu'il va y avoir un problème. Hop, je recule. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Et ici, il y a l'idée de se maîtriser par l'esprit, hein, on ne peut pas par nous-mêmes. Et puis l'idée de pardonner. Voilà, hop, on oublie. Et on peut retenir ces 4 enseignements qui sont édifiants et qui, pour nous préserver justement des chutes, hein, dans les relations des uns avec les autres. C'est 1, retenir ses lèvres, se retirer si on sent que ça ne va pas bien se passer, c'est pas une discussion paisible, se maîtriser pour ne pas tomber dans la colère et puis pardonner si jamais bien quelque chose arrive. Et s'il y avait eu, par exemple, une ou deux personnes, des pro-Paul, on va les appeler, ils sont pro-Paul d'une manière affichée et ils le disent, mais que de l'autre côté, des pro-Apollos, on va dire, ou des pro-rien du tout, hein, des pro-Seigneur Jésus-Christ, avaient suivi ces bons conseils des proverbes, eh bien, la chose se serait tout de suite apaisée. Et puis, voilà, on tourne la page. Mais il semble que personne ne prenait la bonne attitude. Alors, Paul tire la conclusion et dit, « N'êtes-vous pas des hommes ?» Et quand il dit « N'êtes-vous pas des hommes ?», dans notre traduction « second », en fait, « second » a choisi de traduire par « homme ». Mais en fait, c'est le même mot que « charnel ». Il dit « Mais n'êtes-vous pas charnel ?» Il le répète, en fait. « Vous êtes charnel, en fait. » Et on l'a vu ensemble. Le fait de tomber n'est pas anormal. Je tombe, vous êtes tombés, et nous tomberons encore, les uns au même vis-à-vis des autres. Nous sommes des pécheurs, et on peut tomber à chaque instant. Mais on peut être qualifié de charnel lorsque le problème est récurrent et on ne fait pas grand-chose pour le régler. Si on ne lutte pas contre ce que nous savons être du péché dans notre vie, alors eh bien, nous sommes charnels, encore charnels. Si par contre on lutte sincèrement, mais on retombe et on demande pardon et on retombe et on redemande pardon, mais on veut vraiment la délivrance, là, ce n'est pas une question d'être charnel ou spirituel. On est dans le processus de la sanctification. C'est normal. Tous, nous devons vivre ça, avancer avec le Seigneur. C'est le processus normal. Et le reproche que Paul fait aux Corinthiens, c'est qu'après leur conversion, ils sont devenus des hommes spirituels. Et bon, ils sont tombés, mais ils auraient dû se relever. Et là, ils continuent dans une vie, mais plutôt basse et charnelle, basé sur des jalousies, des conflits, des luttes internes, et aucun pour relever l'autre, mais ils se querellaient ensemble. Alors, c'est bien de se poser la question, est-ce que je vis une croissance qui est normale? Est-ce que je suis toujours dans un processus de sanctification? Est-ce que je désire que Christ vraiment me libère des péchés que je vois, que je sais dans ma vie? Est-ce que je lutte dans mon couple, dans mes relations avec ma femme ou avec mon mari? Mais il y a les péchés qui sortent là, hein? C'est inévitable. Mais est-ce que je lutte contre moi-même et contre ce que je sais qui ne devrait pas être dans mon couple? Avec mes enfants même, avec ma famille, avec mes parents, avec mes amis, avec mes proches, avec mes frères et sœurs. Est-ce que je lutte? 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 8. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et Paul va leur expliquer que leur zèle à essayer de défendre l'un contre l'autre des serviteurs de Dieu n'a pas de raison d'être. Parce qu'ils étaient en train de se focaliser sur le travail de Paul ou se focaliser sur le travail d'Apollos. Mais, ou bien le travail de Céphas. Mais en réalité, Paul, Apollos, Céphas faisaient des œuvres qui étaient différentes. Ils étaient différents, ils étaient appelés à des choses qui étaient différentes, et donc ce n'était pas comparable. On ne peut pas comparer. Et il n'y a rien à comparer parce que ce sont des vies qui sont différentes. Et il y a une chose qu'il est bien d'apprendre le plus tôt possible, c'est d'essayer de ne pas se comparer ou ne pas essayer de comparer les autres. Parce que ça, c'est... Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, dans ma vie, c'est récurrent. Hein. Ça revient sans cesse. Il ne faut plus qu'on se compare. On ne doit pas se comparer les uns aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous uniques. Notre relation avec le Seigneur, elle est unique. Et donc, elle n'est pas comparable. On est différent. Paul a planté, Apollos a arrosé. Ils ont fait deux actions différentes qui ne sont pas comparables. Est-ce que l'évangile de Matthieu est mieux que l'évangile de Jean? Matthieu 13, c'est super Matthieu 13, c'est un chapitre merveilleux. Ah oui, mais Jean 1 est vraiment extraordinaire. Mais est-ce que Matthieu est mieux que Jean ou Jean que Matthieu? Mais non. Ce qu'on retient, c'est qu'ils ont communiqué la parole de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est ce qui vient de Dieu qui est merveilleux. Mais les hommes en eux-mêmes, C'est des hommes. C'est des hommes. Et de la même manière, on ne peut pas comparer la vie de tel frère avec tel autre frère. Ce n'est pas possible. Ils sont vraiment différents. Et Dieu a un plan qui est différent pour l'un et pour l'autre. Et finalement, ce ne sont pas les hommes qui agissent qui sont quelque chose, mais c'est Dieu qui fait les choses au travers d'eux. Celui qui plante et celui qui arrose, dit la parole, sont égaux. Ils sont pareils. On est tous égaux dans le Seigneur. Et celui qui est derrière le pupitre, il n'est pas mieux que ceux qui sont assis. Et ceux qui sont assis ne sont pas mieux que celui qui est derrière le pupitre. On est tous égaux. Tous à un même niveau devant le Seigneur. Et chacun va recevoir sa récompense selon son propre travail. Et ce n'est pas une question de position apparente. La réelle importance pour chacun, c'est que tous, on continue à croître et à grandir avec le Seigneur. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Que notre croissance ne s'arrête pas. Versets 9 et 10 dans notre chapitre. Paul dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Et après avoir connu peut-être des chutes et des rechutes et des luttes et des découragements, finalement, la croissance normale nous conduit à devenir des hommes et des femmes spirituelles. Ça, c'est le but. De petit enfant, on devient jeune Jean. Hein. Nous avons vaincu le malin, dit l'épître de Jean. Hein, vous êtes fort, vous avez vaincu le malin. On a compris qu'il y a un combat. Et puis petit à petit, on devient un père. Un père, c'est quelqu'un qui enfante, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui bâtit quelque chose, un père. Et ça, c'est le stade suivant dans la croissance normale. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul a posé le fondement comme un sage architecte. Et maintenant, eh bien, c'est à nous de bâtir dessus. En vivant la parole, hein, en étant un exemple, en priant, en partageant, en témoignant, c'est à nous de bâtir dessus. Et si on devait faire une courbe d'une croissance normale, elle serait peut-être un peu comme ça. Donc, ça monte, et puis hop, chute. Mais ça monte encore. Et hop, hop. On peut même faire une grande chute, et remonter, et aller encore plus haut et plus loin. Ça, c'est la courbe normale. Maintenant, si la courbe, elle fait ça, ça, puis de temps en temps, une envolée spirituelle, hop, là, ça ne va pas. Le Seigneur veut plutôt qu'il y ait des chutes de temps en temps, mais qu'on demeure en haut. Et pas le contraire, quand on demeure en bas. Et de temps en temps, le Seigneur fait grâce. Il se sert de nous. Parce qu'il le fait, hein, il se sert de tous ses enfants. La croissance, logiquement, elle doit être constante, même s'il y a des chutes, mais constante. Et on grimpe avec le Seigneur. Dieu veut nous conduire à vivre en lui, demeurez en moi. Et que lui vive en nous, et je demeurerai en vous. C'est la vraie relation, lui avec moi, moi avec lui, hein, on le chante. Hein. Christ est mort pour cela. Et il nous a donné sa vie de sainteté. Il nous l'a accordée gracieusement. Mais elle ne peut être que si on lui cède notre cœur. Hein. On a vu tout à l'heure, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne tout ton cœur. Comme dit Paul, si résolument, chaque jour, on lui offre nos membres en sacrifice vivant. Le matin, Seigneur, voilà, je m'offre à toi pour vivre cette journée avec toi. Si ça ne suffit pas, le midi, Seigneur, je suis tombé, mais je m'offre encore à toi. Je veux vivre pour toi. Alors, eh bien, le Seigneur va accorder la victoire. Si on lui dit, Seigneur, donne-moi la force. Je n'ai pas la force. Hein. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur donne la clé, il dit, mais si tu veilles et tu pries, je te garderai. Si tu ne veilles pas et pries pas, ben, tu tomberas et tu resteras en bas. La victoire, elle est dans une relation vraie, dans une communion vraie avec le Seigneur. Le juste vivra par la foi.